Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard pour vous présenter cette édition d'Escale. Cette semaine, nous rencontrons Philippe Gauthier, le greffier de la Cour internationale de justice, la CIJ. La Cour est l'organe judiciaire principal de l'ONU. Composée de 15 juges, élus pour un mandat de 9 ans, elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé ses activités en avril 1946. Installée à La Haye, aux Pays-Bas, elle est le seul des 6 organes principaux de l'ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une double mission, consistant d'une part à régler conformément au droit international les différents ordres juridiques qui lui sont soumis par les États, et d'autre part à donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui peuvent lui être soumises. Depuis le 1er août 2019, Philippe Gauthier, de nationalité belge, occupe le poste de greffier, c'est-à-dire le chef du secrétariat qui assiste la Cour. Élu pour un mandat de 7 ans, il a succédé à Philippe Couvreur, parti à la retraite et qui a occupé ce poste de 2000 à 2019. Philippe Gauthier était depuis 2001 le greffier du Tribunal international du droit de la mer. Il était récemment au siège des Nations Unies à New York. ONU Info l'a rencontré. Nous lui avons demandé quel est le rôle de la Cour internationale de justice dans le monde d'aujourd'hui.
Le rôle de la Cour est fondamental, je dirais, pour correspondre et pour remplir un des objectifs fondamentaux de la Charte des Nations Unies, qui est le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Et à partir du moment où les États ne peuvent pas se faire la guerre, ne peuvent plus, pour régler leurs différends, ils ont besoin d'une juridiction, un moyen pacifique pour régler les différends, du moins quand les négociations ne fonctionnent pas. Quand il n'y a pas moyen de résoudre un différend par le biais de négociations, on a besoin d'une cour, d'une juridiction internationale. Et la cour est cet instrument et elle est l'organe judiciaire principal des Nations Unies. J'insiste là-dessus parce que c'est un organe de l'Organisation des Nations Unies, même s'il est situé à La Haye, aux Pays-Bas, et c'est le seul organe principal qui n'est pas à New York. C'est la seule cour mondiale permanente, parce qu'elle est composée de 15 juges élus pour des termes de 9 ans. Seule cour permanente à compétence mondiale, qui a également une compétence générale, qui n'est pas limitée. C'est toute question de droit international qui peut lui être soumise. Donc c'est ça, je dirais en quelques mots, le rôle de la Cour. Sa compétence est double. Premièrement, elle règle les différends entre États, et par le biais d'arrêts, de jugements, qui ont une valeur obligatoire. Et elle peut également rendre des avis consultatifs non obligatoires, mais à ce moment-là, pas à la demande des États, c'est la grande différence entre les deux bases de compétences, mais à la demande de l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire l'Assemblée Générale ou l'ECOSOC ou le Conseil de Sécurité, et également les institutions spécialisées. Donc ça, c'est les deux bases de compétences. Maintenant, il faut quand même préciser que la compétence de la Cour repose sur le consentement des États. Donc il n'y a pas une compétence automatique, obligatoire, parce que la Cour existe. Il faut encore que les États acceptent qu'une affaire les concernant soit soumise à la Cour. Et ça, comment peuvent-ils le faire? Soit par le biais de déclarations qui sont déposées à l'avance. Actuellement, il y en a 74. Bon, on peut faire mieux. Autre possibilité, c'est dans les traités qui sont conclus, dans les contrats entre États, il y a des clauses prévoyant qu'en cas de différend, il y aura recours à la Cour pour régler le différend en question. Ou il peut y avoir également l'hypothèse d'un compromis qui est conclu après la naissance du différend. Mais c'est moins fréquent parce que quand vous avez un différend qui est né et actuel, bien souvent il y a une des parties qui est intéressée par soumettre l'affaire à la Cour, mais l'autre est peut-être plus frileuse. Donc c'est moins utilisé, je dirais, dans les faits. Mais si on regarde le résultat, on peut dire que c'est quand même un succès pour le moment. Mais il faut rester humble et savoir que l'histoire peut évoluer dans différentes directions. Mais actuellement, si vous regardez l'histoire de la Cour, il y a quand même 177 affaires qui ont été soumises depuis 1946. Plus de la moitié ont été soumises dans les derniers 30 ans. Donc ça montre un engouement pour la justice internationale. Et parmi ces 177 affaires, il y a 27 avis consultatifs. Le reste concerne des différends entre États. Et actuellement, il y a 16 affaires qui sont pendantes devant la Cour, ce qui est la première fois de son histoire. Enfin, il y a eu à un moment donné une seule affaire qui était introduite contre une série d'États, mais je dirais 16 affaires distinctes comme maintenant, c'est la première fois dans l'histoire de la Cour. Et ça montre quand même qu'il y a un succès de la Cour au sein de la communauté internationale, qu'elle répond à un besoin.
Gauthier a commencé à son poste de greffier de la CIJ il y a quelques mois. Pour lui, le contexte n'est pas facile, en raison du rôle beaucoup plus chargé de la Cour que par le passé. Nous lui avons demandé plus de détails sur les 16 affaires qui sont pendantes.
Parmi les 16 affaires, il y a, certains diront, le fonds de commerce d'une juridiction internationale comme la Cour, c'est les affaires de délimitation terrestre, maritime, qui sont très importantes parce que, si vous regardez l'histoire, bon nombre de conflits armés commencent avec ça, avec des questions territoriales qui sont très politiquement sensibles. Et donc, il y a 5 affaires. Parmi les 16, il y a la Somalie-Kenya, Nicaragua-Colombie, 2 affaires en la matière, Guyane-Venezuela, Guatemala-Belize. Donc, c'est déjà un portefeuille assez rempli. Puis, il y a une série d'affaires concernant l'imposition de sanctions, des contre-mesures. Ce sont les 2 affaires opposant l'Iran aux États-Unis concernant la légalité de ces sanctions imposées par les États-Unis au regard d'un traité bilatéral de 1955 entre les 2 États. Également, la légalité de certaines mesures adoptées à l'encontre du Qatar dans le cadre de l'aviation civile internationale. Et là, il y a 2 affaires entre des États du Golfe, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, Bahreïn, les Émirats Arabes Unis et Qatar. Donc vous avez également là une zone de tension. Quand il y a des tensions, il y a des recours, je dirais. L'environnement est quelque chose qui revient régulièrement. L'utilisation de l'eau, il y a également toujours une affaire qui est inscrite au rôle sur le barrage Gapsi-Kovo entre la Hongrie et la Slovaquie. Vous avez à côté de cela une des affaires qui se rapportent à des violations alléguées de conventions qui protègent les droits humains ou la protection consulaire. Et là, vous avez la convention contre la discrimination raciale qui est au centre d'affaires introduites par le Qatar contre les Émirats Arabes Unis et l'Ukraine contre la Russie. Donc c'est également un point important. Ce sont des affaires interétatiques, mais qui concerne des violations de conventions qui protègent les droits humains. Il y a également une affaire entre la France et la Guinée équatoriale sur des questions d'immunité diplomatique. Et puis une affaire importante qui va être plaidée le mois prochain à La Haye, c'est la question de la réparation des dommages de guerre, je dirais, entre le Congo et l'Ouganda. Donc là, c'est une affaire importante. Et dernière affaire également mentionnée, celle introduite par la Palestine contre les États-Unis pour le transfert de l'ambassade. Avec ces 16 affaires, il y a quand même différentes directions qui sont remplies, mais je garde à l'esprit, il y a les sanctions, contre-mesures, utilisation de la force, il y a la protection des droits humains au sens large, les affaires de délimitation et l'environnement.
Comment expliquez-vous l'augmentation du nombre d'affaires près de la CIJ?
Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent intervenir. Il y a une confiance accrue dans le rôle de la Cour et qui, me semble-t-il, provient du fait d'une jurisprudence qui a été élaborée de manière cohérente au long des années. La Cour ne fait pas n'importe quoi. Je crois que la qualité des arrêts est reconnue. Même si on peut être la partie qui ne gagne pas, il y a quand même une qualité du raisonnement, là, du raisonnement juridique. Donc, il y a une confiance dans cette impartialité, dans le fait que la cause sera traitée par les meilleurs juristes, bon, qui sont quand même élus par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité. Et il y a un gage d'indépendance, d'impartialité. Il y a également l'existence d'engagement. La compétence de la Cour est basée sur le consentement. Plus les États donnent des signes en faveur de l'utilisation des modes de règlement pacifique des différends, c'est-à-dire s'engagent, font une déclaration pour reconnaître la compétence de la Cour ou signent des traités dans lesquels il y a des clauses qui donnent compétence à la Cour, plus il y a des possibilités, des voies, des chemins d'accès, puisque la grande difficulté, c'est lorsque vous êtes face à un différend, c'est de trouver le moyen de porter ce différend devant la Cour. Il faut trouver la bonne convention ou la bonne déclaration. C'est les 2 éléments essentiels. Et peut-être le troisième, c'est que le recours au règlement pacifique des différends est devenu quelque chose de plus, je dirais pas banal, ça reste un acte important, mais ce n'est pas du tout un acte inamical, ça ne devrait d'ailleurs pas être considéré comme tel, mais il y a moins de complexe à activer ce moyen, et je crois que c'est une très bonne chose.
Vous avez évoqué les avis consultatifs. Quelle est l'importance des procédures consultatives ?
Les avis consultatifs ont une grande valeur juridique, même s'ils ne sont pas obligatoires. Donc, à la différence des arrêts ou des ordonnances qui ont une valeur obligatoire, les avis consultatifs sont de simples avis, donc une valeur de recommandation en quelque sorte. Et ils ne sont pas demandés, ces avis ne peuvent pas être demandés par des États, mais par des organes de l'Organisation des Nations Unies ou des institutions spécialisées. Alors, ça peut avoir une valeur très importante parce que ça va clarifier certaines règles de droit international. Un exemple trivial, je dirais, c'est celui de la personnalité juridique internationale des Nations Unies. C'est le résultat d'un avis consultatif de la Cour dans les premiers avis consultatifs, parce qu'il n'y a pas de disposition dans la charte qui reconnaît la personnalité internationale de l'Organisation des Nations Unies pour conclure des traités, etc. La même chose pour l'égalité de la création du tribunal administratif des Nations Unies. C'est un avis consultatif des années 50. Là, l'égalité était contestée. C'est important. Il y a un avis qui est reconnu. Si vous demandez à des étudiants de droit la question de la personnalité juridique ou la question de la légalité de la création du TANU, ils vont faire référence, s'ils ont eu de bons cours, ils vont faire référence à ces deux avis consultatifs comme si c'était des avis qui faisaient autorité juridique, peu importe qu'ils ne soient pas à l'origine obligatoire. Et si vous regardez le dernier avis consultatif, c'est sur l'archipel de Chagos, le processus de décolonisation. Là également, la Cour a clarifié les règles applicables au processus de décolonisation et a reconnu que l'autodétermination, le principe, était applicable dès le milieu des années 60 et qu'il devait s'appliquer à l'indépendance de Maurice. Et bien sûr qu'à ce moment-là, il n'était pas possible de séparer l'archipel de Chagos de Maurice à l'époque.
Pour le grand public, les procédures à la CIJUS peuvent donner l'impression qu'elles prennent beaucoup de temps. Certains critiquent la lenteur des procédures. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Je dirais que ce n'est pas tout à fait fondé. Parce qu'une procédure devant la Cour, maintenant, parce que le rôle est chargé, va peut-être prendre 3 ans. Plus, minus. Mais si vous comparez à l'arbitrage, ce n'est pas nécessairement plus court. Mais il faut garder à l'esprit qu'en réalité, la plus grande partie de ce temps est prise par les parties. C'est-à-dire que les parties qui agissent devant la Cour vont traditionnellement déposer un mémoire et un contre-mémoire. Donc le demandeur un mémoire et le défendeur un contre-mémoire. Mais bien sûr, dans le contre-mémoire, on va aborder des questions qu'on n'avait pas nécessairement abordées dans le mémoire. Donc le demandeur va vouloir un deuxième jeu d'écriture, surtout si ça concerne des questions très importantes. Et toutes les affaires sont importantes pour les États qui les soumettent à la Cour. Donc il y aura souvent une réplique et une duplique. Ça fait 4 pièces de procédure qui vont prendre au minimum 6 mois. Dans les faits, le mémoire et le contre-mémoire vont nécessiter chacun 12 mois. Donc vous avez déjà là 2 ans facilement pour la fin de la procédure écrite. Et puis, après ça, il y aura l'audience, 6 mois après, et puis l'arrêt, 6 mois après. Mais le processus de délibération est assez court, 6 mois environ. Bien sûr, ça dépend des circonstances. S'il y a une affaire en demande d'indication de mesures conservatoires qui a priorité, ça va ralentir un peu les choses. S'il y a une contestation de la compétence de la Cour, il peut y avoir une interruption pendant 1 an parce qu'il faut régler d'abord cette question. Mais je dirais que le rythme peut être accéléré. La Cour a pris des mesures parce qu'elle traite en parallèle de plusieurs affaires. Donc il y a déjà des actions qui ont été menées. Et puis je voudrais quand même souligner que la grande différence entre la Cour et l'arbitrage, par exemple, et le coût. Pour les États, quels qu'ils soient, le recours à la Cour est gratuit. Bien sûr, il y a le budget des Nations Unies qui l'alimente, mais il n'y a pas un paiement des juges ou du greffe. Bien sûr, il faut payer ses avocats, mais le recours à la justice internationale est gratuit.
Voilà, fin d'escale avec Philippe Gauthier, greffier de la Cour internationale de justice, un magazine conçu, produit et présenté par Jérôme Bernard. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet et via les médias sociaux nos magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien d'ONU Info. Merci de votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine.